monde de Tintin et Milou. Une chronique animée par Jean-Yves Delors et Bruno Hiray.
Bonjour Bruno.
Bonjour Jean-Yves.
On a parlé déjà de l'histoire et de Tintin dans les années 40 puis 60. À la fin des années 50, Hergé va livrer deux aventures passionnantes. L'affaire Tournesol, qui est une plongée dans l'espionnage scientifique, et Coq en stock, sur le problème de l'esclavage moderne. Nous sommes en pleine guerre froide. Cette histoire d'espionnage scientifique est totalement d'actualité. Hergé imagine que des projecteurs paraboliques vont produire avec des ultrasons une arme sans égale. On y voit une maquette d'un gratte-ciel qui s'effondre, un peu à l'image de ce qui se passera 55 ans plus tard avec les attentats du 11 septembre 2001. La Bordurie, ce méchant pays gouverné par un maréchal dictateur, Plexiglas, représente évidemment un pays satellite de l'Union soviétique.
Les derniers albums seront davantage déconnectés de l'actualité. Hergé vieillit, change à des problèmes personnels. Dans Tintin au Tibet, il évoque l'amitié avec Chang. Tintin et Haddock risquent leur vie dans l'Himalaya. Et dans les bijoux de la Cassafiore, il ne se passe pratiquement rien. Juste un vol de bijoux et l'invention de la télévision couleur quelques années avant son apparition. Vol 714 pour Sydney évoque l'histoire d'objets volants non identifiés. On est à l'époque de la folie des soucoupes volantes. Le dernier album publié, Tintin et les Picaros, évoque les guerrilleros et les dictatures sud-américaines. Mais c'est davantage pour adopter un ton moqueur et désabusé.
Et oui, on arrive à la période triste de Hergé. Il poursuit dans cet album le processus de déconstruction de l'univers de Tintin entamé dès les bijoux de la Cassafiore. L'évolution concerne d'abord le personnage principal de Tintin, qui abandonne ses culottes de golf pour des jeans, arbore un signe Peace and Love sur son casque de moto et pratique le yoga, tout en témoignant d'une certaine lassitude à l'égard de l'aventure. Les décors et les costumes intègrent pleinement la mode de leur époque. On inscrit le héros dans l'air du temps. La scène finale de la prise du pouvoir par Alcazar pendant le carnaval illustre bien l'irruption du factice et du vulgaire dans la série, selon l'expression de Philippe Gaudin. Les différents spécialistes de l'œuvre d'Hergé attribuent néanmoins quelques qualités à cet album. On peut y dire une critique des médias et de leurs dérives potentielles, tout comme du tourisme de masse. Dans sa manière de présenter le peuple comme la victime des querelles de dirigeants assoiffés de pouvoir, Tintin et les Picaros fait aussi part de sa compréhension et de sa tolérance envers les autres.
Alors il reste l'album inachevé. Ce tout dernier album sur l'art est une histoire d'escroquerie dans le monde des tableaux. Elle fait suite à une célèbre affaire, celle d'un marchand de tableaux, Fernand Le Gros, qui a défrayé la chronique pendant 12 ans entre 1967 et 1979. Ce mystificateur fut accusé d'avoir mis en vente, dans le monde, plus de 1000 toiles de maître avec la complicité d'un faussaire diabolique. Il fut finalement condamné à 2 ans de prison. L'album ne sera jamais achevé. Que conclure de tout cela, Jean-Yves ?
Eh bien, à quelques exceptions près, notamment les derniers albums, les aventures de Tintin et Milou s'inscrivent profondément dans l'histoire du XXe siècle. Ce qui explique pourquoi le « reporter absolu », comme l'appelait Eric Orsona en parlant de Tintin, a marqué des générations de lecteurs sur tous les continents. Tintin est au cœur de l'actualité, mais il le fait avec un ton, un sens de l'anecdote, du rire, qui permet de passionner aussi bien le lecteur avisé, qui suit l'actualité, que le jeune lecteur plus attaché au comportement de Milou, d'Haddock, de Tournesol et des Dupont. Tintin est bien l'album des jeunes de 16 à 77 ans.
À la semaine prochaine, mille sabords.